du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour, une semaine après la COP22, la 22e conférence des Nations Unies sur le climat, l'impression est double. Il y a ce que nous avons vu à Marrakech, des centaines d'entreprises de tous les secteurs de l'économie engagées dans une économie décarbonée et une volonté politique de lutter contre les changements climatiques, affirmée par les dizaines de chefs d'État qui ont fait le déplacement. Optimisme donc, renforcé par la mobilisation des citoyens comme ceux que vous entendrez dans la deuxième partie de l'émission. Puis il y a la douche froide imposée par les débats politiques franco-français à coups de programmes basés sur une vision du monde datée du siècle dernier. Demain, nous vous offrirons une bouffée d'oxygène avec un collectif de citoyens qui en appelle justement au sursaut écologique et démocratique. Mais l'heure est tout d'abord à l'implacable constat scientifique. Le constat est violent. En plein milieu du Pacifique, les récifs coralliens des archipels des Tuamotu sont en train de mourir. Les scientifiques de l'expédition Tara Pacifique n'en reviennent pas. Il ne reste que 5% de corail vivant autour de ces atolls isolés de la Polynésie française. Cela pourrait bouleverser la vie des gens et l'ensemble de l'écosystème marin. Pierre de Parsco a suivi ces découvertes à bord de la goélette Tara.
À 4 mètres, ouais. 90.
Bah déjà là on est à 3 mètres. Ouais. Puis regarde devant, ça passe pas là.
Ouais. 3 mètres et puis surtout avec la.
Même en zone, on passe pas là.
3 mètres avec 1 mètre de creux,
là, t'as une patate,
2 mètres. Ouais.
Il est 7h du matin et le soleil s'est déjà levé sur l'atoll de Tikei, en plein cœur de l'archipel des Tuamotu, à l'est de Tahiti. Avec quelques marins, nous avons laissé derrière nous la goélette Tara pour embarquer à bord d'une annexe à moteur avec le capitaine Martin Herteau. Dans cette région du Pacifique, les cartes marines sont souvent incomplètes et obligent les marins à effectuer des repérages avec un sondeur avant d'engager leur bateau dans des passes qui pourraient être fatales. Notre petit bateau à moteur avance dans un couloir étroit, agité par le courant, avec de chaque côté de grosses vagues qui viennent se briser contre la barrière de corail. Malgré le décor enchanteur des cocotiers et des îlots déserts, nous décidons de rebrousser chemin face à cette passe pleine de pièges, l'unique porte d'entrée vers le lagon de l'atoll.
Enfin, tous les atolls qu'on a fait depuis le début de Papeete, c'est-à-dire depuis 3 semaines, là, il n'y a pas de carte d'approche. C'est des atolls qui ne sont pas cartographiés. C'est l'intérêt en fait, des scientifiques, là, c'est d'aller dans des endroits où il y a peu de données. Donc il y a quelques familles polynésiennes qui y vivent, mais on n'a pas de carte. Donc c'est beaucoup effectivement au sondeur et à la couleur. Il faut naviguer avec la bonne heure. Soleil assez haut, dans d'autres préférences, et puis couleur de l'eau. Là, par exemple, il y a beaucoup trop de vent, de houle. Qui arrive, en fait, on voit bien derrière, ça brise. Il y a 2 mètres, 3 mètres facile. On ne peut pas rentrer en surf dans une passe où on n'a pas de carte, où les fonds sont juste à la profondeur de ce qu'il y a sous le bateau, c'est-à-dire des safrans et de la dérive. Donc on vient repérer. Mais là, on regarde, hein, je vois bien autour de toi, là, c'est juste impossible. Ça brise. Donc, du coup, on va rentrer et puis on va faire une journée classique, plongeur sur la pente extérieure.
À défaut de pouvoir jeter l'ancre dans le lagon de l'île, Tara va se mettre à la dérive autour de Tikei. Voilà déjà 3 semaines que les côtes de Tahiti ont disparu derrière l'horizon pour laisser Tara face aux vagues du Pacifique. 2 équipes scientifiques se sont succédées à bord pour étudier l'état de santé du corail dans une quinzaine d'atolls pour la plupart totalement inhabités. À l'intérieur du carré de Tara, le thermomètre indique 33 degrés, ce qui n'empêche pas Martin Herteau et Serge Plan, le directeur de l'expédition, de faire le point sur la mission à venir. Ils sont tous les deux penchés sur les cartes marines de la Polynésie française et doivent tracer la route pour les prochaines semaines.
Donc du coup, pour le prochain leg, là, l'idée c'est de faire 9 îles. Hein. J'ai regardé un peu ta carte, toi. C'est lesquelles à peu près que tu veux...
Voilà, donc l'idée pour moi et le principe de la recherche, c'est de comparer des îles, des atolls, puisque c'est dans la zone Tuamotu, où c'est que des atolls. Donc de comparer des atolls qui sont, comme celui-ci, tu vois, par exemple, qui sont comblés, ouais. Où il n'y a pas du tout de lagon, avec des atolls qui sont comme celui-ci, par exemple, avec un lagon, mais il n'y a pas de passe, Tahiti, et puis des atolls de ce type-là où il y a une passe. Et de voir en fait si on a un impact finalement du lagon sur les pentes externes et sur les productions des pentes externes. Donc pour ça, on a choisi les quelques atolls en fait qui sont comblés, parce qu'il y en a très très peu en fait, donc qui sont un peu au sud de Hao.
Nukutavake.
Nukutavake, Akiyaki aussi.
Akiyaki.
Voilà. Et le dernier qui nous fait remonter beaucoup plus, qui est Tikei, qui est celui-ci. Ce sont les trois qui sont comblés.
D'accord.
C'est grand la Polynésie. On a l'impression qu'on se déplace vite entre les îles, mais c'est grand de suite entre les îles.
Des plans Césaire pour Tara, fort et clair Nico.
Ouais Martin, c'est juste pour t'informer qu'on est arrivé. David et puis les 4 compteurs viennent de se mettre à l'eau à 10h31.
Sur le pont arrière, les équipes de plongeurs s'apprêtent à se mettre à l'eau. Parmi eux, Valeriano Paravincini, le chef de cette expédition intitulée Bioatoll, qui va se concentrer sur l'influence du lagon sur la biodiversité des récifs. Valeriano, pourquoi le lagon est-il si important pour la biodiversité de ces îles isolées ?
Donc la plupart des atolls coralliens sont, surtout en Polynésie, ont une origine volcanique et sont caractérisés par la présence d'une lagon. Le lagon est l'endroit dans les atolls normalement le plus accessible et celui qui est le plus impacté par l'homme, notamment la pêche, la pollution, etc. C'est aussi un endroit où on a une concentration de nutriments qui est plus importante par rapport à ce qu'on retrouve à l'extérieur. Donc l'objectif de la mission, c'était de comparer des atolls avec des morphologies différentes. On essaye de comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire perdre un lagon dans les récifs coralliens. Qu'est-ce que ça peut être l'impact si on a un excès de surpêche, un excès d'impact dans les lagons. Est-ce que ça a des implications sur la productivité du récif à l'extérieur ?
Après plusieurs plongées avec votre équipe, est-ce qu'on peut déjà évoquer un premier bilan sur vos recherches ?
Ce qui m'a surpris, c'est de voir le taux de mortalité très important des coraux. Donc on a fait, on analyse les données des poissons, mais on a pris et collecté aussi des données sur l'état de la communauté benthique, c'est-à-dire les coraux, les algues, tout ce qui vivent sur le fond marin. Il y a une mortalité qui est très importante, c'est très variable. Il y a des endroits qui sont en très bonne santé, mais il y a des endroits où on a une mortalité, je dirais, on peut estimer environ 70% de la communauté des coraux. Et donc là, on vient des 2 ans d'effet du Niño qui ont provoqué des blanchissements massifs des coraux. Et donc là, il y a une préoccupation véritable parce que ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a cette mortalité importante, mais les coraux sont toujours en place, c'est-à-dire ils sont morts, mais ils sont toujours en place. Ce qui fait que la communauté des poissons n'est pas très fortement impactée. Les espèces de poissons qui dépendent à niveau de la nourriture par les coraux sont très peu, sont une cinquantaine d'espèces, 60 espèces sur les 7000 qu'on retrouve dans les récifs coralliens du monde. Et donc le vrai effet qu'on retrouve sur les poissons par la communauté benthique, c'est un effet habitat, un effet refuge. Et ça pour l'instant, même face à la mortalité, reste parce que les coraux sont bien en place. Mais si les coraux meurent, après, ce qui va devenir dominant, c'est un processus de bioérosion ou un processus qui peut être, par exemple, accéléré par l'effet d'un cyclone. Et donc là, on va voir dans le temps des communautés complètement plates. Et là, avec un peu de retard, on va voir sûrement des implications sur la communauté des poissons.
Les dames remontent, s'il
te plaît. Remontent ?
Ouais.
De retour de plongée, les scientifiques ont collecté de précieuses informations sur l'état de santé des récifs. Autour d'une large table installée sur le pont de Tara, Valeriano retrouve Arjun Chenu, l'un des équipiers de cette mission. Ils sont tous les deux occupés autour d'une imposante machine dont dépassent de nombreux fils. Il s'agit d'un prototype de scanner sous-marin baptisé Hyper Diver. Grâce à une caméra embarquée dans un caisson étanche, la machine va pouvoir reconnaître et comptabiliser les espèces de coraux présents sur les récifs et remplacer ainsi l'œil humain et son taux d'erreur important. Arjun, quel a été le point de départ pour mettre au point cette machine ?
Le défi a été de construire une caméra qui nous permette de voir l'invisible sous la mer.
Et c'est comme ça que ça a démarré. Lorsque ça a commencé à fonctionner, on a considéré que c'est une technologie prometteuse. Et on s'est dit que le corail pouvait aussi être un habitat microbien. Il y a beaucoup de microalgues qui vivent en fait à l'intérieur des coraux et qui leur donnent une couleur particulière et également un support écologique pour leur survie. On s'est dit que si on pouvait étudier cet habitat avec une technologie de caméra hyperspectrale, cela devrait être assez intéressant.
Vous faites partie de la jeune génération des scientifiques à bord de Tara. Est-ce que justement la jeunesse a un rôle particulier à jouer dans la lutte pour préserver le corail ?
Oui, en tant que jeune scientifique, ma génération va devoir faire face à des challenges très différents et très intéressants. Car si vous regardez en arrière, dans les premiers rapports sur les coraux faits par Cousteau par exemple, ces descriptions paraissent fantastiques aujourd'hui. On ne peut qu'imaginer ce type de récifs parce qu'ils ont plus ou moins disparu aujourd'hui, sauf dans quelques rares endroits. Donc on a ce problème de changement de contexte, ce que l'on appelle le syndrome de la référence glissante, où nous sommes passés d'une situation incroyablement bonne à une situation plutôt mauvaise. Et c'est un grand changement. Quand vous regardez ici et que vous voyez de petites variations sur le récif, vous vous dites que ce n'est pas grand-chose. Mais si vous jetez un œil quelques décennies en arrière, vous vous apercevez que c'est un bouleversement écologique et géologique. Donc le défi de nos générations est de prendre en compte cette référence glissante et de la garder dans une direction positive, mais aussi de ne pas oublier que nous pouvons encore réparer les choses comme elles étaient à la génération de nos parents. Donc je pense que le challenge est à la fois de ne pas oublier le passé et d'avancer vers l'avenir.
Sur les images qui défilent sur l'écran d'ordinateur d'Arjun, des colonies de coraux blanchis apparaissent. Alors que la Polynésie française était jusqu'ici considérée comme un oasis de biodiversité, encore peu impactée par le changement climatique, les premiers résultats de ces plongées révèlent qu'ici aussi, les récifs subissent de profonds bouleversements. Serge Plane, vous êtes le directeur scientifique de Tara Pacific. Quel est le constat aujourd'hui sur l'état de santé des coraux au Tuamotu ?
Ce qu'on peut dire, c'est que malgré les alertes et les systèmes d'alerte que l'on a mis en place, notamment dans le cadre du CRIOB, pour avoir une information sur l'impact du blanchissement et qui avait été observé dans le Pacifique, on n'avait pas eu trop d'informations. Et là, on se retrouve sur des zones où vraiment les récifs coralliens, sur les pentes externes, sur l'extérieur des récifs, ont été vraiment très abîmés, très dégradés, avec beaucoup, beaucoup de mortalité. On est sur des récifs coralliens qui, habituellement, vont jusqu'à 50, 60% de recouvrement en corail vivant sur les pentes externes. Et dans certaines zones, on est à moins de 5%. Donc, on a vraiment eu des mortalités très importantes sur les récifs des Tuamotu.
Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée des causes de ces transformations ?
Alors les causes de cette mortalité sont, je dirais, bien identifiées. Hein. C'est vraiment un problème de blanchissement dû à la période El Niño, le phénomène climatique d'El Niño de l'année dernière, qui a entraîné donc une augmentation des températures de l'air et donc de l'eau, et donc derrière un stress du corail qui supporte mal ces températures-là et qui blanchit en perdant ses algues, et puis au final va s'appauvrir d'un point de vue nutritif et finalement mourir par manque d'énergie quelque part.
Quels sont les leviers qui pourraient permettre de changer les choses ici ?
Il n'y a pas vraiment de levier scientifique pour endiguer un blanchissement quand c'est un processus climatique de cette ampleur-là, parce que déjà le processus El Niño est un processus, je dirais, naturel, qui est dû à un dérèglement du système atmosphérique dans le Pacifique. Et il est certain que le contexte actuel du changement climatique qui se traduit notamment par une augmentation de la température du globe est quelque chose qui s'ajoute quelque part à des processus de ce type-là et qui, dans un système déjà un peu fragilisé, va se rajouter et va donner un impact encore plus important.
Après ce premier bilan, on pourrait se demander ce qui se passerait si le corail venait à disparaître complètement. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter pour l'avenir des insulaires ici ?
Alors on n'est pas dans un scénario où le corail va disparaître parce que le corail, de par sa diversité, près de 1500 espèces, de par sa capacité de résistance, va toujours exister en tant que tel. Maintenant, ce que l'on peut avoir, c'est effectivement des transformations du récif corallien en un récif qui soit moins dominé par le corail et plus dominé par les algues. Les conséquences, c'est très certainement un changement, je dirais, dans les services que rend l'écosystème aux sociétés humaines, que ce soit en termes de pêche, que ce soit en termes de protection, que ce soit des dérivages, que ce soit en termes de tourisme aussi et de visu. Mais on peut en rajouter là-dessus bien d'autres aspects, parfois plus sournois et que l'on ne voit pas directement. Et donc c'est sûr que cette transformation du récif corallien aura des conséquences sur les économies et même sur la subsistance de certaines économies ou même de survie de certaines sociétés insulaires.
C'est sur un constat alarmant et les cales pleines de centaines d'échantillons que Tara regagne le port de Papeete. Pour les équipiers à bord, une course contre la montre s'engage sur le quai. Chargement de batterie, avitaillement, réparation. Ils n'ont que quelques jours pour préparer Tara à son prochain voyage vers Wallis et Futuna. Sur le pont ce matin, un partenaire de longue date du navire a fait son apparition.
Okay, perfect.
Derrière ses lunettes de soleil bleu lagon, Rainer Friedrich sait qu'il n'a pas de temps à perdre. C'est lui qui est en charge d'acheminer les milliers d'échantillons de Tara jusque dans les laboratoires européens partenaires. Une opération délicate, car si la chaîne du froid venait à être brisée, c'est toute une partie de l'expédition qui serait définitivement perdue. En quelques minutes, des cartons de transport frigorifique sont déployés sur le quai et des scientifiques à la manœuvre pour débarquer le fruit de longues semaines de recherche. Pour Rainer Friedrich, le lien avec Tara dépasse largement le cadre professionnel.
Tara, c'est une grande famille. Depuis la mission Tara Océan, une belle communauté. Je suis toujours heureux d'entrer dans les ports et de revoir l'équipage et de venir à bord. Je dis toujours que ce projet, c'est comme mon bébé et je suis très déterminé à faire réussir cette expédition, comme ce fut le cas avec la précédente. Je suis allemand et Romain Troublé, le directeur de Tara, m'a dit « C'est le mieux qu'on puisse avoir, une expédition française et une logistique allemande. » Je suis trop sérieux, mais c'est parce que j'ai beaucoup de pression sur mes épaules. Je préfère mettre deux étiquettes sur les cartons plutôt qu'une seule, pour être sûr que tout le monde sache ce qu'il y a dedans. C'est une cargaison extrêmement fragile, et c'est un vrai trésor pour notre planète. C'est pour ça que j'en prends autant soin.
Dans quelques heures, et après la moitié d'un tour du monde parcouru dans la soute d'un avion, le trésor de l'expédition Tara sera entre les mains des laboratoires européens qui devront commencer un long travail d'analyse. Valérie Barbe, vous êtes chercheur au Génoscope, qui est l'un des laboratoires partenaires de l'expédition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer dans les prochains mois pour les équipes à terre ?
Donc, au Génoscope, nous allons recevoir environ les 40 000 échantillons qui vont être prélevés sur les deux ans d'expédition. Et on va en traiter une bonne partie. Donc il va y avoir un premier volet qui va être essentiellement pour voir la biodiversité qu'il peut y avoir sur l'ensemble des coraux et les poissons prélevés dans tout le Pacifique, donc d'est en ouest et du sud au nord. Et un deuxième volet, ça va être vraiment de pouvoir faire un catalogue des gènes de l'ensemble des organismes qui vivent aussi avec le corail. Le corail n'est pas tout seul. Il y a déjà une algue qui vit en étroite collaboration avec le corail, mais il y a aussi plein de bactéries. Et l'idée, c'est de vraiment d'avoir le catalogue de gènes le plus complet possible et de pouvoir comparer l'ensemble et de voir un peu si on peut faire une mise en relation avec l'état de santé des coraux.
Pour analyser les 40 000 échantillons de cette expédition, les laboratoires vont devoir travailler durant près de 10 ans et mobiliser des dizaines de chercheurs. Pour eux aussi, l'aventure Tara Pacifique ne fait que commencer.
Ce reportage était signé Pierre de Parsco. Vous pouvez suivre l'expédition en direct sur taraexpedition.org. Restez sur RFI, on se retrouve juste après le flash d'infos avec plein d'invités qui agissent justement dans leur pays pour lutter contre les changements climatiques. A tout de suite.